Bonjour, c'est Anne Berest.
Bonjour, c'est Fabrice Gobert.
Et donc, vous écoutez Pop Pop Pop.
Du Pop Pop Pop, c'est parti.
Pop-popien et tous les autres aussi, bonjour. Quelle ne fut ma déconvenue ce matin lorsqu'arrivant au bureau, j'eus droit à une avalanche de colibets venant de ma propre équipe, au prétexte que la superbe chemise cow-boy que j'arborais fièrement, un modèle magnifique de chemise à carreaux tendance, avec deux poches appliquées à rabat, décorées de passepoils complexes et de broderies à motifs de chevaux se cabrant, et bien sûr de boutons pression nacrés, au prétexte que ma superbe chemise, disais-je, n'était non seulement pas à la mode, pour autant qu'elle ne fut jamais d'ailleurs, ailleurs que dans les rodéos du Bas Kentucky, mais en plus d'un kitsch d'une telle puissance qu'il risquait d'endommager la prunelle délicate de mes collaborateurs. Toujours conciliant, et dans le but de ne pas envenimer les choses, je décidai alors de me changer pour revenir à un équipement plus standard, mais me consolant en me disant que nous recevons aujourd'hui l'homme qui en sait bien plus sur la mode que mes petits et péremptoires camarades. Oui, puisqu'il vient de consacrer à cette dernière une somme définitive de 1246 pages appelée à devenir la Bible du sujet. La mode, ou l'idée qu'on s'en fait, et la relativité du goût, voilà ce dont nous allons donc parler avec son grand prêtre, Olivier Saillard, qui est l'invité de Pop Pop Pop.
Pop Pop Pop. Antoine Decaune.
Bonjour Olivier Saillard.
Bonjour.
J'aime beaucoup votre chemise.
Merci beaucoup.
Chemise cow-boy.
Oui,
disons-le. Vous voyez, Charline. Bon. Oui. Alors, à mes côtés, celle qui prend les couloirs de la maison de la radio pour un catwalk. Charline Wintour-Roux,
bien sûr,
bonjour.
La même coupe de cheveux. Bonjour.
Bonjour, au menu de Pop Pop Pop. Donc, on parle de goût, de bon goût avec vous, Olivier Saillard, et de mauvais goût tout à l'heure avec l'encyclopédie du mauvais goût que viendra nous présenter Nicolas Destienne-Dorve, son auteur. Mais avant ça, Olivier Saillard. Ici, il existe une question de mauvais goût. Encore pire qu'une question de Francky Vincent. Francky Vincent, dont nous allons reparler dans la suite de l'émission peut-être. Bref, cette question ici, c'est... Olivier Saillard, pour vous, c'est quoi la pop culture? Alors, pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses olivieresques, saillardatives, modosissimes et même catmosisées. Et parmi mes préférées, il y a celle de notre chroniqueur mode, Loïc Prigent. Alors attention, préparez-vous, c'est très court.
C'est ce qu'il y avait dans les supermarchés et qui maintenant il y a dans notre téléphone.
C'est efficace. Et pour vous...
C'est réducteur.
Et pour vous, Olivier Saillard, c'est quoi la pop culture?
Je ne sais pas trop. Je pense peut-être que c'est un peu l'aristocratie du pauvre. C'est quand le phénomène moyen, méprisé, ignoré, socialement loin des élites, devient un piédestal, un socle, et qui, le devenant, s'éteint, parfois aussi.
Oh, c'est beau et désespéré.
C'est en live, je ne sais pas si...
Non, ça me va. Charline, ça vous convient?
Parfaitement.
Je demande parce qu'il faut qu'elle valide, vous savez, c'est la règle, bon, ça Radio France. Oui. Alors la pop, la culture et la pop culture, on va en parler dans la suite de Pop Pop Pop, juste après un morceau qui s'intitule Earthquake. C'est un morceau du rappeur de Los Angeles, Tyler, the Creator.
Make my earthquake, riding around, cause I'll be shaking me up and it's making
life on my own. The mic on my low. Love gon' set me up. Bitch gon' set me up. I'm retaliate. He ride like the car. And she weak. Yeah, like Wolf Vicky. Yeah, oh my god. Damn, not Timmy.
Earthquake. Je sais pas ce qu'il y a un F hein, dans Earthquake. C'est un morceau de Tyler the Creator. Vous écoutez Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon. Et nous sommes aujourd'hui en compagnie d'un invité que le New York Times définit comme un magicien. Mais alors, qui est ce Sylvain Mirouf de la pop culture ? Réponse avec son pop portrait. Alors oui, un pop portrait, bien sûr, c'est votre portrait, Olivier, mais.
À base de pop, 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 pop.
Et c'est signé Charline.
Vous êtes du genre à exhumer Sylvain Mirouf.
Oui,
d'accord, très
j'exhume
bien.
Tout.
Aujourd'hui dans Pop Pop, un érudit de la SAP, un diplômé des tendances, un docteur S-mode, pas le genre à confondre Pelle à tarte et Claudine, Gore-Tex et Gabardine ou à porter des petits gilets hiver comme été. Et évidemment, le jour où j'en parle, vous n'en portez pas Antoine. Mais plutôt du style à maîtriser la croix et ses bannières, poète à 16 heures qui aime la mode autant que l'art et aussi un peu le cochon, si j'ai bien compris, de préférence en lardon avec un œuf mollet et des pissenlits. Oui, les infos sont bonnes.
Exact.
Un homme raffiné et terrien, normal, c'est un historien, conservateur en chef du patrimoine du Palais Galliera, musée de la mode de la ville de Paris, aujourd'hui directeur artistique et créateur, non seulement de belles choses, mais aussi de performances, notamment avec l'immense au propre, comme au figuré, Tilda Swinton. C'est aujourd'hui l'encyclopédiste, ou presque, que nous recevons, et comme en plus il est modeste, il a appelé ce colossal dico « bouquin ». Plus question désormais de rester aussi négligé.
Merci Charline. Un érudit de la SAP, ça vous convient ?
Oui, pas mal, j'aime bien. Oui, oui. Du vêtement, c'est bien quand on déplace le mot mode pour revenir à l'état d'habit. C'est mieux.
Pourquoi c'est mieux ?
Et parce que la mode, c'est un système et la discipline, c'est vraiment le vêtement. Ça échappe l'arrogance de l'image, ça éloigne un petit peu cette pression-là.
Mais vous n'êtes pas sapologue pour autant ?
Non, et ni sapeur.
Ni sapeur.
J'ai beaucoup d'admiration pour eux.
Alors, je parlais de Francky Vincent tout à l'heure, et c'est peut-être le moment d'en reparler. On va vérifier ça avec votre pop list. Olivier Saillard, nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série. Pour le livre, votre choix s'est porté sur La peau, écrit par Curzio Malaparte, paru en 1949. Charline, n'est-il pas ironique que notre invité, qui a une telle passion pour le vêtement, la deuxième peau, donc, choisisse un livre qui s'intéresse littéralement à la première ?
Mais totalement, Antoine, je ne l'avais pas remarqué. En 1943, Curzio Malaparte, correspondant de guerre et officier de liaison auprès des Alliés, se trouve à Naples avec les troupes américaines venues libérer le pays. Ce roman poursuit donc son entreprise de témoignage sur la Seconde Guerre mondiale.
Bien. Olivier Saillard, auriez-vous la gentillesse de nous en lire quelques lignes ?
Avec plaisir. Ça va casser l'ambiance.
Allez-y, on est habitué.
La mort ne me fait pas peur, je ne la hais pas, elle ne me dégoûte pas. Au fond, c'est là une chose qui ne me regarde pas. Mais la souffrance, je la hais, et celle des autres, hommes ou animaux, plus que la mienne. Je suis prêt à tout, à n'importe quelle lâcheté, à n'importe quel acte héroïque, pour ne pas faire souffrir un être humain, pour aider un homme à ne pas souffrir, à mourir sans douleur.
Ça va, je m'attendais à pire.
Ça va, ça va.
Oui, pourquoi est-ce que c'est le livre qui vous vient immédiatement à l'esprit quand on vous demande un titre ?
Vraiment, honnêtement, j'avais pas fait le rapprochement, en effet, que c'était la peau par rapport à... Mais, du coup, je ne maîtrise pas toujours mes choix. Non, parce que je trouve que c'est un livre contemporain, c'est-à-dire qui a fait entrer la littérature aussi dans une forme contemporaine du XXe siècle. Mmh. J'adore Malaparte parce que je trouve que c'est un chroniqueur du XXe siècle formidable, controversé. Et cette histoire de la peau, elle est un peu tous les pressentiments de la fin du siècle, c'est-à-dire une forme acharnée, décharnée, de souffrance humaine et d'une catastrophe à venir. Mmh. Je sais pas, je trouve qu'à la fois c'est assez rock.
Vous voulez vraiment casser l'ambiance. Merci. Olivier, alors c'est donc la peau de Malaparte pour le livre. Pour ce qui est, vous lisez énormément. Hein.
Ah, beaucoup.
Vous lisez énormément. Mmh. Et vous dites d'ailleurs que vous avez appris à ne pas vous soumettre à la tyrannie du présent pour découvrir parfois certains livres. C'est vrai ça?
Ah oui. Mais c'est... j'aime bien découvrir les choses très en retard. Même un défilé de mode, je réclame le droit de le découvrir quand ça fait 3 ans qu'il a été là.
Ouais.
Il n'y a aucune raison, on peut découvrir, et Dieu sait que j'ai pas tout lu, mais il y a encore des livres de Flaubert que j'ai pas lu, alors c'est bien aussi ça. Et puis je pense que cet espace-temps, plus que jamais, est nécessaire pour redevenir enthousiaste.
Bien, passons au cinéma. Qui a peur de Virginia Woolf? C'est le film que vous choisissez, Olivier Saillard, dans votre pop-list. C'est un film réalisé par Mike Nichols en 67. Charline, je sais que vous avez peur du grand méchant loup, mais avez-vous aussi peur de la grande méchante Woolf?
Non, j'ai peur de rien ni personne à part vous et vos gilets. Georges et Martha sont mariés depuis plus de 20 ans. Lors d'une réception donnée par le père de Martha, une scène de ménage homérique éclate entre femme et mari.
Who's afraid of you?
It's easy to talk about Warner Brothers' new motion picture, Who's Afraid of Virginia Woolf? All you have to say is Elizabeth Taylor, Richard Burton.
Who's afraid of Virginia Woolf? Twirl I in the morning. Who's afraid of Virginia Woolf?
Who's afraid of Virginia Woolf? After that, all you can say is incredible.
Olivier Saillard, vous avez peur de Virginia Woolf? Non. Ou des scènes de ménage?
Du scène de ménage, oui. Ouais. Ça, j'aime pas ça et je voudrais pas en avoir. Donc, je m'arrange bien pour ne pas passer à côté. Mais surtout, j'adore Taylor, quoi. C'est vraiment un monstre, un monument. Ça, vraiment, j'aurais aimé rencontrer cette nana-là, quoi. Ouais. Et puis, cette carrière d'actrice, cet être infiniment sympathique, gourmande et tout. Puis, le film, il est génial.
Ouais.
C'est vraiment... Enfin, c'est bête de dire ça, mais c'est un jeu d'acteur essentiel, quoi, vraiment.
De tous les films d'Elizabeth Taylor, c'est celui-là que vous gardez.
Ah ouais, puis je trouve que ce corps qui est devenu gros, et puis ces répliques qu'elle a, c'est le cinéma dans le cinéma, aussi les citations, les fameuses Bette Davis, il y a un truc, il y a vraiment, elle est une mise en abîme, Taylor, de tout ça, je trouve.
Parfait. Qu'est-ce qu'il me faut maintenant? Il me faut une série, Olivier Saillard, et pour la série, alors, vous nous avez répondu, je vous cite, je n'ai jamais regardé de série à part Chapeau Melon et Bottes de Cuir. Mais, avez-vous ajouté, est-ce une série? Mais attendez, Olivier Saillard, bien évidemment! C'est une série créée par Sidney Newman et Leonard White, diffusée entre 61 et 69 au Royaume-Uni.
Patrick McNee et John Wickham Gascoigne Beresford Steed, dit John Steed, agent des services secrets britanniques. Et dans ses missions, il est d'abord épaulé par Honor Blackman, Dr. Catherine Gale, dite Cathy Gale, anthropologue, Diana Rigg, a.k.a. Emma Peel, PDG de la compagnie Knight Industries, Linda Thorson, soit Tara King, également agent des services secrets britanniques, et enfin, Peur Day, la géniale Joanna Lumley.
Voilà. C'est bon, vous êtes convaincu? C'est vraiment une série?
Ah oui, je suis content. Oui. Parce que vraiment, j'adorais m'appel en courage comme ça.
Ouais.
C'est un rapport évidemment aux vêtements que portaient les comédiens et les comédiennes.
Oui. Mais sur l'écrivain aussi, comme quoi vraiment, je suis vraiment pas imprévisible. Chapeau melon et bottes de cuir, la peau, vraiment, tout ça.
Évidemment, et chapeau melon assassin. Et bottes de cuir pour un homme qui parle de mode, qui a pour passion la mode, évidemment. C'est la série.
Et puis Peur Day, c'était vraiment bien.
Peur Day, c'est toujours bien.
Ouais.
Bien, Olivier Saillard, terminons cette pop list avec votre chanson culte. Et cette chanson, c'est celle-ci.
You know that it would be untrue. You know that I would be a liar. If I was to say to you, boy, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire.
Light My Fire, et je crois bien que c'est une chanson de José Feliciano, reprise par les Doors en 66 et par Shirley Bassey, la version qu'on vient d'écouter, en 70. Alors, qu'est-ce qu'elle a cette chanson ?
Je trouve que c'est du feu, en effet, c'est de la flamme. Et puis Shirley Bassey, allez sur YouTube et regardez un enregistrement de Shirley Bassey. Je crois que c'est une émission en Allemagne. Mm-hmm. Et c'est une flamme, c'est torride à souhait, vraiment. C'est une bête de scène formidable, c'est une chanteuse. J'ai beaucoup d'admiration, une grande diva.
Et alors, c'est une chanson qui était dans la BO du Fashion Freak Show de Jean-Paul Gaultier. C'est une chanson que vous associez automatiquement à la mode ou non, pas forcément ?
Non, mais je l'associe beaucoup au dos nu de la chanteuse, parce que elle avait souvent ce côté pulpeux, à ce corps pulpeux. Pas à la mode, non. En fait, j'ai découvert tardivement, vraiment. C'est...
Parfait. Alors, je résume La Peau, qui a peur de Virginia Woolf, chapeau melon et bottes de cuir, Light My Fire. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. Et ça nous donne ça.
Come on, baby, light my fire. Who's afraid of Virginia Woolf?
Come on, baby, light my fire.
Virginia Woolf, Virginia Woolf.
Try to set the night on.
La mort ne me fait pas peur, je ne la hais pas, elle ne me dégoûte pas. Mais la souffrance, je la hais.
Come on, baby, light my fire.
Who's afraid of Virginia Woolf?
Fire.
After that, all you can say is incredible.
Votre patchwork de pop culture, Olivier Sayard?
Ouais, pas mal, un peu à vif quand même, non? Ça me va.
Bon, et je mange rétrospectivement ma bouche parce que Light My Fire a bien été composé par les Doors et repris par la suite par José Feliciano. Voilà, pour les puristes. Alors, Olivier Sayard, on parle de bouquins et de mode avec le bouquin de la mode, un bouquin consacré à... Où est ma fiche, là? Ah ben oui, la mode, bien sûr. Alors, on va en parler juste après Moodoid. Le morceau, c'est « Je suis la montagne », c'est le titre, hein, c'est pas moi.
Je suis la montagne.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine Decaune.
Et Charline Hero. Olivier Saillard, notre invité, est vêtu d'une chemise en jean à boutons de nacre, d'un pantalon bleu de travail et d'une superbe paire de Weston. Ça doit être contractuel. Il dissimule son regard derrière des petites lunettes cerclées de fer qui protègent ses yeux malicieux. Olivier Saillard, je me suis transformé en Augustin Trappenard pour vous décrire. C'est réussi ou pas?
Ça passe, ça marche.
C'est raccord.
C'est raccord, c'est toujours comme ça.
Alors le bouquin de la mode, soit une somme, c'est toujours comme ça. C'est un uniforme.
Oui, c'est à peu près tous les jours comme
vous
ça.
Vous habillez tous les jours de la même manière.
Oui. Alors pas que les mêmes vêtements, je vous rassure. Non, mais toujours une chemise en jean, un pantalon bleu et voilà.
C'est-à-dire comme les Men in Black, on ouvre vos placards et on trouve les
tout pareil.
Tenues. D'accord, très bien.
Vous qui passez votre vie immergée dans l'univers de la mode, oui. Commentez, vous êtes toujours vêtu de la même manière.
Ah oui, parce que comme ça on n'y pense plus. Et puis je trouve que c'est une manière aussi d'arrêter de vieillir. À un moment donné, quand on se donne un uniforme, on échappe à une datation au carbone 14. On n'est plus des années 60 ou 80 ou 2000. On est un peu chez soi.
Ok, très bien, je saurais m'en souvenir. Le bouquin de la mode, vous aussi Charline, le bouquin de la mode, soit une somme d'une impressionnante érudition sur un sujet qui concerne de près ou de loin tous ceux qui décident de s'habiller plutôt que de rester nu. Alors quand on sait votre amour de la mode et des livres, il n'est pas exagéré de dire que rien ne saurait mieux vous représenter que ce livre, Olivier Saillard.
Pourquoi ce titre bouquin plutôt que livre, dictionnaire ou encyclopédie? Est-ce que ça vaccine contre le snobisme qu'on ne peut s'empêcher de prêter à tort à tous ceux qui aiment le sujet?
Parce que on associe plutôt les livres de mode à des livres d'images. Et bouquin, d'abord, c'est la collection Bouquin qui a été inventée par Guy Scheller et qui est dirigée maintenant par Jean-Luc Barré aux éditions Robert Laffont. Donc, notre code, c'était le bouquin de la mode et il n'y avait pas de meilleur titre. Je trouve que c'est bien plus joli, quoi. Et il n'y a aucune image. Donc, le bouquin dit ça aussi.
Si, il y a quelques images. Deux, trois.
Trois,
les croquis,
quatre,
bon, le croquis. Alors, pour rester dans la métaphore, vous êtes un peu le directeur de collection de l'ouvrage puisqu'il regroupe des participations diverses. Comment avez-vous établi votre casting?
Avec urgence. Non, mais avec tous ceux qui voulaient bien faire vite.
Non, sur quels critères?
Sur les critères, en fait, ce que je voulais, c'est qu'on fasse un livre. Il y a beaucoup d'ouvrages de mode qu'on peut lire, mais à une table, sur un tabouret en bois de bibliothèque, mais pas dans son lit. Je voulais qu'on puisse prendre un livre de mode et qu'on le lise le matin, le dimanche matin, en traînant au lit, sur un canapé, et qu'on puisse, que quelqu'un même qui n'est pas érudit et qui n'a pas forcément d'addiction pour la mode, puisse aussi découvrir un peu tout ce théâtre des apparences comme un roman. Donc ça s'est fait plutôt comme ça, de retrouver des auteurs qui pouvaient donner du savoir et de l'écriture aussi.
Est-ce qu'on peut y lire en creux une ébauche de définition de ce que serait le style français? Comment est-ce que vous pourriez d'ailleurs le résumer?
Le style français, ouais. De la mode,
bah, quelque chose qui serait constitutif de nos particularités à nous, les Français.
L'éphémère, l'instabilité, ouais. L'éphémère, l'infidélité, c'est ça. C'est l'origine de la mode et du goût de l'homme et de la femme française, peut-être, au-delà d'une forme, hein, vraiment. Mais je pense que c'est ça, ouais.
Et avec cette définition évolution du style, on peut aussi établir une sorte d'histoire du luxe à travers le livre.
Oui, vraiment. Une histoire du luxe, une histoire aussi du bon goût ou du mauvais goût, vous allez en parler. L'un devenant souvent l'autre, indifféremment. Mais surtout aussi... peut-être que le choix finalement de Malaparte du texte qui je n'étais pas d'accord est bien. C'est quand on a eu terminé de faire le livre, en fait, on s'est aperçu que ça parlait beaucoup de mode, certes, mais beaucoup de mort. C'est très, très lié. C'est le bouquin de la mode et de la mort.
Il y a un dialogue entre la mode et la mort, d'ailleurs, à la
voilà,
fin du livre.
Et c'est beaucoup ça. Dans tous les auteurs du 15e à aujourd'hui, on ne fait que dire une chose comme ça. Il y a ce moment qui pourrait résumer le livre, où Mademoiselle Chanel arrive à un dîner où Paul Poiret, qui était le grand oriental couturier en couleur, et pour se moquer d'elle, Poiret dit à Chanel « Mais de qui êtes-vous en deuil ?» puisqu'elle revêtait une petite robe noire, et elle lui dit « Mais de vous, monsieur. » Et c'est comme ça le livre de la mode, il parle que de ça, d'un qui naît alors que l'autre disparaît.
Un livre qui est à la fois une somme, hein, comme je le disais, sur la mode, son histoire, ses ramifications, ses tendances, ses influences, et un livre qui se lit plus qu'il ne se regarde. Il y a deux, trois illustrations, vous l'avez dit, mais c'est quand même un choix. Au-delà du livre qu'on lit dans son lit le dimanche matin, c'est un choix, c'est-à-dire de lier cette littérature qui par ailleurs vous passionne à la mode.
Ah oui, oui, et puis il y a une telle somme de textes de grands auteurs qui se sont intéressés à la mode qu'il y a aussi dans le livre une anthologie que je trouvais nécessaire à faire figurer. La mode ne le sait pas, mais elle a écrit toujours beaucoup. Il y a notamment, encore aujourd'hui, les dossiers de presse, tout ce que l'on décrit de la mode. Or, pour décrire une robe rouge, si je le demande à trois personnes différentes, ça va donner trois descriptions différentes. Et sans le savoir, la mode écrit depuis longtemps, mais on n'a jamais prêté attention à ce qu'on appelait avant une littérature grise, une littérature pas signée. On écrit beaucoup, mais on signe pas.
Alors, Antoine le disait, il y a une très belle place pour la littérature dans ce livre. On y croise Morand, Zola, Rabelais. Comment est-ce que vous avez établi justement toute cette bibliographie des auteurs qui parlaient de ça et des textes?
En fait, depuis peut-être 30 ans maintenant, chaque fois que je lisais un livre, je cornais la page là où il y avait une description de vêtements, ou plutôt une relation du vêtement et de l'être. Et
vous lisez vos livres, hein, parce que j'ai remarqué que sur Instagram, vous n'arrêtez pas de surligner les phrases qui vous intéressent.
Oui, mais uniquement qui traitent du vêtement.
Oui.
Et ça, Dieu merci, ça m'a aidé, parce que vraiment, après, donc, je suis retourné dans tous ces livres. Et puis j'ai repris les pages, j'ai fait Instagram justement pour m'aider à classifier tout ça. Et puis après, s'il y a des textes fameux comme Balzac, comme Diderot, Regret sur ma vieille robe de chambre, c'est des textes qu'on sait.
Et est-ce que pour vous, comme dans les contes de fées également cités dans l'ouvrage, le vêtement a une dimension magique?
Ah bah ouais, imaginez si on était tous à poil là autour de la table.
Alors,
ce serait pas magique.
Alors, pour prendre votre cas, quelle est la magie de la chemise en jean?
C'est un paravent. Ouais. C'est un paravent, c'est une petite structure, un corset.
On
a tous des corsets quand même.
Une protection aussi.
Protection.
Des câbles d'invisibilité.
Ouais.
Christian Lacroix dit qu'il n'existe pas de mots pour définir ce que vous faites, Olivier Saillard. Il ajoute que vous avez inventé un métier qui ne ressemble qu'à vous. C'est quoi votre métier?
Moi, je crois, je comprends ce qu'il veut dire, mais je crois que je suis toujours historien. Que je fasse une expo, que je fasse un livre, que je fasse une collection de chaussures ou une performance avec Tilda Swinton, je fais que ça, que parler d'une histoire de la mode, que je suis historien. Après, c'est vrai que peut-être, des fois, les gens disent que je suis poète, alors je trouve que c'est un peu un vieux mot. Peut-être que oui, j'ai essayé d'introduire un peu un langage poétique dans un métier qui était très structuré, corseté. Quoi. Mmh. Mais je pense que je fais la même chose.
Pour expliquer les liens entre mode et pop culture, il y a un film qui m'est revenu en mémoire, l'adaptation du roman de Lorraine Weisberger, Le diable s'habille en Prada, et notamment cet échange entre la terrible Miranda, incarnée par Meryl Streep, rédactrice en chef caractérielle, qui reprend de voler sa jeune assistante, ayant eu l'outrecuidance de se moquer d'un dilemme vestimentaire, leçon de la patronne à propos du pull bleu de son employé.
Ce que vous ignorez, c'est que ce pull n'est pas simplement bleu, il n'est pas turquoise, il n'est pas lapis, en fait, il est bleu céruléen. Et vous êtes aussi parfaitement inconsciente du fait que, en 2002, Oscar de la Renta a créé une collection de robes bleu céruléen. Et je crois que c'est Yves Saint Laurent, n'est-ce pas, qui a créé les vestes militaires bleu céruléen. Je crois qu'il nous faudrait une veste. Ensuite, le bleu céruléen est vite apparu dans les collections de 8 différents stylistes. Et puis, la tendance a influencé la plupart des grands magasins. Et puis, c'est répandu dans les boutiques bon marché, dans des sinistres endroits où vous avez sans doute repêché le vôtre dans un grand bac depuis le soldé. Bref, ce bleu céruléen représente des millions de dollars et un nombre incalculable d'emplois. Et je trouve assez amusant que vous pensiez avoir fait un choix qui n'a pas été dicté par l'industrie de la mode, alors qu'en fait, vous portez un vêtement qui a été choisi pour vous par les personnes qui se trouvent dans ce bureau.
Olivier Saillard, est-ce que s'habiller, c'est forcément être sous influence?
Oui, parce que même quand on se dit qu'on ne fait pas de choix, on fait un choix de ce non-choix. Il y a trop de propositions. Ce serait l'uniforme qui nous conduirait à ça. Mais oui, même quand on décide d'être hors mode, on est dedans.
Et alors vous qui êtes une encyclopédie, est-ce que ce qui a été énoncé dans cet extrait est vrai?
C'est pas mal, oui, c'est pas mal vu. C'est hélas tristement bien vu.
Oui.
La mode, c'est de la pop culture bien évidemment, mais vous expliquez comment cette mode a influencé la pop culture, par exemple avec ça. Olivier Saillard, sans son affreuse parure, Peau d'âne n'aurait pas pu échapper à son père incestueux.
Oui, c'est vrai. C'est le cas pour beaucoup de filles encore, je pense.
Donc
d'échapper à leur père incestueux, heureusement non, mais d'échapper à toutes les tentations ou à tous les désirs.
Alors, idem pour Cendrillon, si elle avait été en jogging et en claquettes chaussettes, pas de prince.
Moins.
Vive les pantoufles de verre.
Un autre genre de prince, alors.
Un autre genre de prince, peut-être.
On le lit aussi dans le bouquin. Mode et BD sont indissociables. Paco Rabanne disait « La BD est pour moi le plus formidable des modes contemporains d'expression. J'étais absolument fascinée par ces jolies femmes qui gravitaient autour de Luc Bradford, dessiné par Clarence Gray. Dans le livre, vous citez Edgar Pierre Jacobs pour Blake et Mortimer, Lorenzo Mattotti, Flock. La BD a influencé la mode et vice-versa ?
À une période courte. Je dirais qu'il y a une période bénie de rencontres entre les années 60 et 70, notamment avec Paco Rabanne. Après, je crois que la BD a perdu de vue la mode pour aller plutôt dans les corps. Les corps nouveaux, les corps extraterrestres. Mais moi, je suis toujours fidèle aussi à la première BD à Bécassine, qui est aussi dans un uniforme particulier. J'aime cette relation-là. La relation aussi que Babar, le créateur de Babar, de Brunoff, était aussi le rédacteur en chef de Vogue. J'aime bien cette double association.
Le bouquin de la mode, c'est 1246 pages écrites avec une dizaine de spécialistes, chercheurs, écrivains, entrecoupées de portraits de ceux qui ont gravé la mode, comme un certain Martin Margiela. Mais pas d'interview de Martin Margiela. Il ne donne pas d'interview. Il ne veut pas en donner. Vous avez essuyé d'autres refus ?
Non, il donne des interviews, Martin Margiela, mais il ne veut pas prendre la plume. Il ne veut pas qu'il y ait une forme de question-réponse. On s'est beaucoup vu, on a fait une exposition. Non, je n'ai pas essuyé de refus parce que je n'ai pas fait de demande. Donc j'ai écrit sur ceux que j'avais envie d'écrire, sans forcément... Et puis, avec les années, j'ai vu des couturiers longtemps, longuement. Donc j'ai fait les textes qui remontaient à la surface et des souvenirs.
Quel rapport entretenez-vous avec ce milieu de la mode ?
Loin, loin. J'aime vraiment beaucoup la mode, j'aime le vêtement, j'aime pas du tout le système, mais comme beaucoup de gens, je pense, dans leur discipline, et que je veux garder intact ce goût que j'ai, mais c'est presque devenu de l'anthropologie, de l'intime un peu. Le vêtement est devenu ce que j'aime le plus au-delà de la mode. Mais avec la mode, non, je trouve que c'est très excluant, que ça me rend triste un défilé de mode, je trouve que... Ce théâtre des apparences avec maintenant tous les blogueurs, avec tout ça, c'est une espèce de festival de Cannes qui serait lui-même organisé à Las Vegas et qu'on ferait jouer à Tokyo. Non, je suis plus adhérent.
Vous faites vraiment la distinction de manière systématique entre la mode et le vêtement. C'est deux entités complètement séparées pour vous.
Oui, parce qu'il y a un système, il y a un marché et il y a par ailleurs des vêtements que nous portons avec lesquels nous racontons nos vies, nous vivons, nous transpirons, on peut le dire aussi, toute forme d'expression. Et ça, la mode n'en parle pas.
Vous le comprenez, amis auditeurs, vous êtes en train d'entendre un sage s'exprimer au micro de Pop Pop Pop, qui est un sage qui a écrit ce livre absolument épatant, le bouquin de la mode. Que vous intéressiez ou non à la mode, d'ailleurs, si vous ne intéressez pas à la mode, elle s'intéresse à vous, donc autant faire la moitié
du
chemin.
Vous n'avez pas le choix. Hein.
Et ça vient de sortir chez Robert Laffont, et c'est l'œuvre d'Olivier Saillard. Olivier, restez avec nous, ne bougez pas. On s'est rendu compte que vous saviez faire plein de choses. Est-ce que vous savez faire ça ?
Jamais essayé.
Ah oui,
pas mal,
parfait,
pas mal.
Ah, c'est un des plus beaux pop que j'ai eu depuis le début de cette émission.
Et puis, merci. J'ai beaucoup bu hier soir, donc
pour lancer les pop news.
La nouvelle la plus réjouissante du jour nous a été annoncée cet après-midi par Pierre Ninet par une courte vidéo dans laquelle on entend ceci.
Mais j'ai pas moi ça.
Une vidéo sur laquelle on le voit hilar aux côtés de Jean Dujardin, le tout accompagné du texte suivant, ouvrez les guillemets, si on m'avait dit un jour que je serais un OSS aux côtés d'Hubert, bonisseur de la batte, quelle folie, quelle joie, hashtag OSS 117, hashtag alerte rouge en Afrique noire, fin de citation. À la réalisation, on le savait, Nicolas Bedos, le tout évidemment sur un scénario de Jean-François Alain, mais quelle excellente idée.
On en reparlera quand il faut rapporter quelque chose de lourd.
Du 16 au 20 octobre, c'est la 5e édition de Paris internationale, une foire d'art contemporain différente, alternative et collaborative qui accueille 42 galeries venues du monde entier. Paris International prend le pouls de la création contemporaine en présentant le travail d'artistes confirmés et de talents émergents de New York à Shanghai en passant par Vienne, Londres, Hong Kong, Milan, des œuvres réunies sur les quatre étages d'un immeuble situé au 16 rue Alfred de Vigny dans le 8e arrondissement de Paris.
Et puisqu'on parle mode et bon goût, laissez-moi vous signaler un professeur d'un genre très particulier dans la nouvelle publicité Jean-Paul Gaultier. Enfin, une publicité dans laquelle Rossi des Palma demande à son assistant personnel et numérique, Jean-Pod, de lui trouver un enseignant French art de vivre.
I have exactly what you need.
À toi !
Hello, Rossi !
Antoine.
Hello, ma petite chérie. So you want to speak with a French accent?
Yes, please.
It's very hard.
Very hard.
Very hard.
Hard.
Lesson number one.
Yes.
The girl.
The girl.
The boy.
The boy.
The room.
I know this accent very well, I think.
I know this voice,
oui,
yes.
Oui. La suite, c'est sur la chaîne YouTube de Jean-Paul Gaultier.
France Inter. Pop-pop-pop. Antoine Decaune.
I know this accent very well.
This is you.
Mais oui, this is me, bravo Charline. Olivier Saillard, mordez dans ce coussin que je vous tends, car dans la suite de Pop-Pop-Pop, vous risquez de souffrir. On va parler de chaussettes blanches dans des mocassins, d'anneaux dans le nez. Enfin bref, on va parler de mauvais goût avec Nicolas d'Étienne d'Orve et son encyclopédie. Mais avant de se faire du mal, on va se faire du bien avec les Kinks et ce morceau. She's bought a hat like Princess Marina.
She's bought a hat like Princess Marina's to wear at all her social affairs. She wears it when she's cleaning the windows. She wears it when she's scrubbing the stairs. But you will never see her at Ascot. She can't afford the time or the fare. But she's bought a hat like Princess Marina's, so she don't care.
He's bought a hat like Antonina's, because it makes him feel like a he can't afford a Rolls or a Bentley. He has to buy a second-hand Ford. He tries to feed his wife and his family and buy them clothes and shoes they can wear. But he's bought a hat like Antonina's, so he
think it treats her a treat. But she hasn't any food in the larder, knows anybody else in the street. But to look at her you'd think she was wealthy, but she smiles just like a real lady. But she's worn the hat like Princess Marina, so she
Hat Like Princess Marina. C'est un morceau des Kinks, extrait de l'album Arthur, or the Decline and Fall of the British Empire, qui fête ses 50 ans et qui ressort pour l'occasion en version collector le 25 octobre prochain. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes... Olivier Saillard le fait à merveille. Hein. Oui. Oh, mais
pop
non,
parfait.
vous savez, Nicolas, non? Bravo! Tout le monde sait faire. Ben oui, sauf vous, Charline. Nous recevons aujourd'hui Nicolas d'Estienne-Dorf qui vient de nous rejoindre avec un magnifique pop en studio.
Et vous publiez l'encyclopédie du mauvais goût. Est-ce que c'est une vaste entreprise de réhabilitation? Et si oui, est-ce que c'est pas là une nouvelle forme de snobisme?
C'est pas une entreprise de réhabilitation, c'est un catalogue extrêmement subjectif, totalement personnel, parfaitement partial et, j'espère, amusant. C'est-à-dire qu'il y a du bon, il y a du mauvais goût positif et du mauvais goût négatif. Mmh. C'est ça la différence. C'est assez œcuménique.
Un mauvais goût qui commence, qui s'affiche dès la couverture. Hein, tout y est, des fleurs, une typo digne de Woodhart. C'est ça?
Word
art, d'accord. Des cartes postales de filles, les fesses à l'air, une boule à neige avec la tour Eiffel, une licorne et un mannequin Neko, le chat porte-bonheur japonais.
Et un très léger godemichet sur la droite, mais qui est caché par des fleurs.
Très léger, je ne vais pas en parler à l'antenne, mais dites-moi, attendez. Nicolas Destiendorf, pour vous, c'est quoi le mauvais goût?
Ah ben alors, le mauvais goût, c'est-à-dire c'est le mien, c'est pas le vôtre. Mmh. C'est ça. Voilà, le mauvais goût, c'est pour moi, c'est.
Nous ne pouvons pas avoir un mauvais goût en commun.
Alors, c'est le principe. C'est le moment où ça sort, des rails. Le mauvais goût, c'est une forme de surcharge. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a le mauvais goût que moi j'appelle le mauvais goût positif. Ça, c'est ce qui me plaît, c'est-à-dire la surcharge avec du second degré. Et la surcharge au premier degré, c'est ce que j'appelle le mauvais goût qui ne me plaît pas. Mmh. Voilà, c'est ce qui est en trop, c'est ce qui dégouline. Et puis avoir des dégoulinages, si je puis dire, esthétiques, intelligents, et il y a des dégoulinages déplaisants.
Olivier Sayer, si je vous pose la même question, c'est quoi le mauvais goût? Vous dites quoi, vous?
Le mauvais goût, souvent, ça fait évoluer la mode. C'est souvent en allant puiser dans une sorte de mauvais goût très sûr, mm-hmm, qu'on devient un peu l'apôtre du bon goût. Mais non, c'est bien, le mauvais goût en mode, c'est souvent recherché.
Nicolas, vous le disiez, vous précisez que c'est une encyclopédie très subjective du mauvais goût, puisque outre les choses objectivement laides dont regorge le livre, oui, je veux dire objectivement, il y a aussi quelques partis pris qui vont vous valoir quelques ennemis, puisque vous réservez une place de choix à Belle du Seigneur.
Par exemple, on parlait de surcharge.
Non, Belle du Seigneur que vous dites avoir adoré.
Que j'ai adoré, justement, il faut tuer ses, voilà, il faut kill your darlings, comme on dit. J'ai adoré et je me suis rendu compte à quel point je m'étais trompé pour moi. Et en fait, alors voilà la surcharge. Voilà quelque chose qui dégueule. Voilà quelque chose qui,
du sucre,
qui
du
dégouline
sucre, du sucre.
De la guimauve. Mmh. J'ai adoré, en fait, autant j'ai relu Solal, j'ai relu Manchelou, les livres de ma mère, tout ça, mais Belle du Seigneur, c'est trop. Alors là, pour le coup, c'est une gigantesque baudruche.
Si l'on en croit votre sélection, et vous le rappeliez d'ailleurs à l'instant, il y a deux types de mauvais goût. Le bon mauvais goût,
Mon bon mauvais goût.
Oui, signifié par un pouce en l'air. Et le mauvais mauvais goût, votre mauvais mauvais goût, signifié par un pouce en bas. Comment faites-vous exactement la différence entre les deux? Vous parliez de second degré, mais ça se résume à ça?
Il y a des choses qui sont considérées comme du mauvais goût et que j'aime. Par exemple, Jean-Pierre Mocky, par exemple, Francky Vincent.
Mais vous
par
les
exemple,
aimez au premier degré?
Que j'aime au premier degré.
L'Andouillette.
Oui. Enfin, non, que j'aime aussi parce qu'il y a du second degré. Que j'aime aussi parce qu'en l'occurrence, Jean-Pierre Mocky, paix à son âme. Et j'ai toujours aimé il était à la frontière du raffinement total et de la vulgarité absolue. Ouais. Du kitsch et de l'élégance. Et c'est ça, c'est peut-être là que se niche cette ligne de crête très précise où le mauvais goût peut basculer du mauvais côté, mais en même temps, ça reste en l'air.
Autre entrée intéressante, celle que l'on trouve assez pour chien bras. Et ce n'est pas un accessoire de mode indispensable, ce serait donc la nouvelle du jour.
Alors,
on voit toutes les fashionistas avec ce petit chien sous le bras.
Alors, ce n'est pas uniquement un livre sur la mode.
Non.
Voilà, parce qu'il y a aussi bien, oui, j'ai mis
oui,
le nouveau roman, par exemple.
Ouvrir aussi,
voilà,
hein,
donc il y a l'opéra, je suis critique musicale, donc ça, c'est mes thèmes de prédilection. C'est-à-dire qu'il fallait faire un peu tout le spectre, les enterrements d'une jeune fille, la Saint-Valentin, les Porsche Cayenne. Le chien bras, j'ai toujours été un peu effrayé par cet espace d'appendice. On ne sait pas si c'est un gant, on ne sait pas si c'est une sorte de gigantesque fist-fucking. Et en fait, la dame ou le monsieur tient son chien et comme tataillé. Voilà, moi, ça m'a toujours un peu inquiété. Il y a un côté mutant avec le chien bras. Mmh.
Et en dehors de l'andouillette, vous réservez aussi un cas en matière culinaire à cette tendance, qu'on peut qualifier de celle des gens qui ont tendance à se la tartiner, que vous appelez les menus de restaurants métaphoriques. En quoi est-ce que c'est si irritant?
Ah, moi, ça m'horripile.
On entend par là les
cette espèce d'immense fioriture pour
nuages de pommes de terre.
Ouais. Voilà, tout ça pour avoir
purée
un déshydraté.
Ouais.
Voilà, alors c'est de la rhétorique. Vous me direz que ça, voilà, c'est la richesse de la langue française. Mmh. Mais il y a un moment où la nuance et la subtilité devraient juste s'arrêter à la porte de l'assiette.
Alors, question pour vous deux. Attention, concentrez-vous. Nicolas, vous citez Stendhal. Le mauvais goût, c'est de confondre la mode qui ne vit que de changement avec le beau durable. Mmh. À vous de jouer tous les deux.
Mon cher maître.
J'ai perdu de vue. Je voudrais me le redire.
Ah ben, je vous l'en dis avec plaisir. Le mauvais goût, c'est de confondre la mode qui ne vit que de changement avec le beau durable.
Ah oui. En fait, je note que dans la mode, il faut souvent aller chercher dans les sous-cultures, dans une forme de mauvais goût très répandue, pour le remettre à niveau. Il y a par exemple, je ne sais pas si ça l'est dans votre livre, mais l'histoire de l'imprimé léopard, de l'imprimé panthère, c'est une bonne histoire du goût et du mauvais goût dans la mode. C'est alternativement associé à la bourgeoise ou à la pute. Ouais. Et c'est fait en zigzag, mais c'est jamais avoué comme une forme de bon goût. Jamais, jamais.
Ce qui est intéressant avec le mauvais goût, c'est qu'en fait, ça fait le grand écart. Ça peut être aussi bien un mauvais goût de gens extrêmement nantis que de gens très modestes. Il y a pas de, et c'est ce que j'ai voulu essayer quand même dans ce livre. Je voulais pas faire de que ce soit, j'allais dire, du racisme social. Je tape de tous les côtés parce que c'est trop facile de taper dans les deux côtés.
Parce qu'il y a Porsche Cayenne aussi. Hein.
Il y a Porsche Cayenne. Oui, il y a le nouveau roman. Je veux dire, voilà, il fallait être écuménique et être agaçant et irriter tout le monde. Voilà.
Nicolas Destiendorf, cette encyclopédie du mauvais goût, à qui s'adresse-t-elle? Parce que si on considère qu'on peut tous, autant qu'on est, avoir un petit faible pour l'une ou l'autre de vos cibles, ne courez-vous point le risque de mordre la main qui vous nourrit?
Ça fait des années que je fais ça. En même temps, je suis journaliste et écrivain, c'est le principe. Oui, on verra bien. Ce qui est amusant, c'est que chaque personne me dit « Ah, mais t'as oublié ci, t'as oublié ça. » Donc,
J'ai commencé par ça.
Voilà, c'est-à-dire que c'est, comme on dit maintenant, c'est presque un livre participatif, puisque j'ai utilisé les termes de la novlangue. Donc oui, ça, en fait, peut-être que ça va générer plein d'idées. Chacun va vouloir mettre sa main à la pâte. Et donc, au contraire, c'est très fédérateur.
Est-ce que, par exemple, c'est un livre qu'on peut offrir aux enfants que leurs parents ont choisi de prénommer Jennifer, Kim ou Rihanna?
Absolument. Remarquez, mon petit dernier a ouvert la page, a ouvert le livre à la page Harakiri. Il a 8 ans. On voit un gros plan de sexe qui sort d'un journal. Il était enchanté.
Oui. Il s'appelle pas Rihanna.
Non, il s'appelle Victor.
Ouais.
Nicolas Destiendorf, vous connaissez bien le service public car vous étiez sur France Musique. Je dis bien étiez car vous avez été viré de l'émission Étonnez-moi Benoît, présentée par Benoît Dutertre, pour avoir diffusé ça le 6 décembre 2008.
Ils ont de grosses bites, de gros blancs, de
l'air
qui c'est du mauvais goût.
C'est de la merveille, c'est du raffinement, c'est de l'élégance, c'est de la gastronomie à ce niveau-là.
Dans les choses que vous n'aimez pas, les faux nœuds papillons. Olivier Saillard, vous avez un avis, vous, sur les faux nœuds papillons?
Sur
les faux nœuds papillons.
Les nœuds papillons montés, c'est-à-dire qu'un nœud papillon, on noue son truc, mais le nœud papillon qui est tout prêt avec un élastique, voilà, ça. Parce que je suis porteur de nœuds papillons, et ça m'a toujours agacé, parce que le nœud papillon, c'est de l'effort, c'est une technique, là, c'est trop.
Je voudrais l'avis d'un spécialiste.
Non, je trouve qu'il n'y a pas tellement de faute de goût dans l'apparence, quelle qu'elle soit, qu'il faut se prémunir de juger ça. Mais je ne suis pas fan du nœud de papillon tout court.
Mais Nicolas n'aime pas beaucoup les vêtements colorés, si on se fie aussi à...
Je mets un pouce pourtant, en hauteur aux vêtements colorés. Ça veut dire au contraire, c'est, en fait, la moitié de ce livre, c'est un autoportrait, en fait. Parce qu'ils ont même servi de ma bobine pour certaines photos. C'est totalement assumé. Moi, je me suis toujours habillé en arlequin.
Oui, c'est vrai que vous êtes très mis en scène, hein, dans le.
Ah oui, bah ça c'était le parti pris. Au départ, c'était pas prévu. Et en fait, ils savaient pas comment illustrer. Ils disaient, bon, on va te mettre toi. Donc voilà. Donc j'ai servi de cobaye. Donc, voilà.
Donne de sa personne.
Absolument.
Du journalisme immersif. Nicolas Destiendorf, en revanche, dans les influences pop, on retrouve notre maître à tous.
La société qui m'a fait les travaux était persuadée que j'étais un blaireau. Ils m'ont dit qu'ils faisaient les travaux en 4 mois et ils se sont branlés pendant 9 mois. Quand j'étais absent, certainement en tournée, les ouvriers faisaient venir.
Vous me suivez si je qualifie Francky Vincent d'icône de la pop culture?
Francky Vincent, c'est un maître pour moi. J'ai une vénération. J'ai une passion pour Francky Vincent depuis toujours. J'apprends à mes enfants des titres comme Caca Poule, comme Tu pues du cul. Enfin, ça fait partie. Alors là, on parle de pop culture, ça fait partie de. Pour moi, c'est aussi important que Malherbe, Champfort, Ouracan.
Ça se complète.
C'est la base.
Dans les influences pop, il y a aussi les reprises de ce morceau à l'accordéon.
Jamais mucho.
Mais oui, mais jamais mucho. Mais n'ai pas l'impression de réfréner la liberté d'expression des mélomanes.
J'aime trop la musique pour la supporter très 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 malmenée par toujours les mêmes accordéons et les mêmes accords.
Et vous, Olivier?
Non, j'aime bien l'accordéon, comme ça, qui vient de loin.
J'adore l'accordéon, mais l'accordéon de rue, parfois, est un tout petit peu...
Oui, je trouve que c'est émouvant, que c'est un peu désespérant. Ça me plaît souvent, quand on est dans le métro, qu'on entend même mal jouer ce son qui... comme une voiture qui passe avec la fenêtre ouverte et la musique qui s'échappe. C'est pas toujours beau, mais c'est un peu désespérant.
Mais parce que vous êtes poète, là, déjà, c'est admirable. Non, vous nous racontez une histoire magnifique. Voilà. Alors, Malaparte.
Vous êtes un esthète exigeant, Nicolas.
Voilà, on va dire c'est ça comme ça.
Mm-hmm. Bon. Votre anthologie du mauvais goût, encyclopédie du mauvais goût, sort chez Michel Lafon. Elle est absolument tordante. Bien, nous approchons de la fin de cette émission et c'est l'heure pour moi d'aller chercher le dernier vinyle. Je vais vous jouer un petit Buddy Holly. Allez, je prends l'ascenseur, je vais chercher.
Bonjour, monsieur Antoine.
Bonjour. Ah ben, j'ai un groom maintenant, ça c'est très chic.
Quel étage ?
Moins deux, s'il vous plaît. En plus, habillé en gaultier, j'adore. Ah, vous étiez à la cantine, vous, non ?
Every day, it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. It's getting faster. Everyone said, go ahead and ask her. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Every day seems a little longer. Every way love's a little stronger. Come what may, do you ever long for true love from me? Every day it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. A little longer, every way love's a little stronger. Come what may, do you ever long for true love from me? Every day it's a getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Love like yours will surely come my way.
Everyday dans Pop 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 sur France Inter. Aujourd'hui, c'est signé Buddy Holly. C'est un morceau de 1958. Voilà, c'est ici que les Athéniens s'atteignent. Merci Olivier Saillard. Le bouquin de la mode s'est édité chez Robert Laffont. Merci de nous avoir rendu visite.
Merci beaucoup.
Merci Nicolas Destiendorf. L'encyclopédie du mauvais goût s'est édité chez Michel Laffont et non pas chez Robert.
Merci beaucoup.
Et merci aussi d'être venu. Deux livres indispensables à mettre dans votre pop bibliothèque. Merci à l'équipe de Pop Pop Pop, Ghislain Fontanus à la réalisation, à la technique Charles Leca, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet, Simon Restat, nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka et Raphaël Harry, notre stagiaire. Demain dans Pop Pop Pop, elle. Izia Higelin sera sur la scène de Pop Pop Pop, accompagnée par la rappeuse franco-chilienne Anna Tijoux. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jeunes 3.0, un Yeuve ou une Yeuvesse à la pointe, suivez-nous. Ou plutôt, comme disent ceux qui font des tutos reprises de Besame Mucho à l'accordéon, votre patient Nicolas, sur YouTube. Abonnez-vous à notre podcast. Voilà comment on pourrait le traduire. Et suivez-nous sur les internets, comme disent les milléniaux, 3615 Pop 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 sur Instagram et Twitter.